30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcy, la Washington, bienvenue à l'écoute de VOA Afrique.
Les grands points de l'actualité, République démocratique du Congo, l'opposition exige le retrait du projet de révision de la loi électorale, actuellement en examen au Parlement.
Un haut dirigeant de l'armée de résistance du Seigneur, bientôt à la CPI, le leader du groupe, lui, Joseph Kony, est encore introuvable.
En France,
grâce à eux, grâce à vous, c'est la liberté qui a gagné sur la barbarie.
Hommage aux policiers tués dans les attaques terroristes de la semaine dernière, alors qu'un numéro de Charlie Hebdo tiré à 3 millions d'exemplaires fait déjà le buzz avant sa parution demain.
Le pape reprend son bâton de pèlerin, il prêche la justice et la réconciliation au Sri Lanka.
Et nous aurons comme d'habitude notre page économie, les sports et la musique, mais d'abord le journal.
L'opposition congolaise a exigé du gouvernement de la République démocratique du Congo qu'il retire son projet de révision de la loi électorale dont l'Assemblée nationale a commencé l'examen lundi. L'opposition estime que ce texte a été conçu dans le seul but de permettre au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de se maintenir à son poste au-delà du terme de son mandat fin 2016, indique l'AFP. Un vote est prévu d'ici le début de la semaine prochaine, suite aux travaux qui devraient durer 4 à 5 jours. Le gouvernement a inséré dans ce projet de loi l'organisation d'un recensement général de la population devant commencer cette année. Et selon l'opposition, c'est une manœuvre pour retarder les élections.
L'un des hauts dirigeants de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, sera livré à la Cour pénale internationale. Dominique Ongwen, qui s'est rendu la semaine dernière aux forces américaines présentes en Centrafrique. L'Ouganda affirme que c'est la RCA qui le transférera, mais pour l'heure à Bangui. Rien n'est moins sûr, Nicolas Pinault.
Oui, le porte-parole de l'armée ougandaise a déclaré dans un premier temps que Dominique Ongwen serait acheminé à La Haye, le siège de la CPI aux Pays-Bas. Paddy Ankunda précise que c'est la Centrafrique qui, en concertation avec les autorités concernées, s'occupe de le livrer à la CPI. Très bientôt, espérons-le, a-t-il dit. Du côté des autorités centrafricaines, c'est l'étonnement. Joint par VOA Afrique, Faustin Gbodou, ministre de la Justice, explique qu'il n'est pas au courant de ces déclarations. Derrière cette confusion se cachent peut-être les récentes déclarations de Yoweri Museveni. Le président ougandais fustige la CPI, même si son pays a signé le traité de Rome. Pour sauver les apparences, l'Ouganda préférerait que Dominique Ongwen soit transféré à La Haye via Bangui et non Kampala. Je vous rappelle que Ongwen est recherché depuis des années par la CPI pour esclavage d'enfants, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
Conséquence des dernières attaques de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, plus de 11 000 personnes ont dû fuir vers le Tchad voisin en l'espace de quelques jours. Tel est le chiffre donné par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Rappelons que le 3 janvier, les djihadistes nigérians ont pris la ville de Baga et son importante base militaire. Les insurgés ont ensuite rasé une quinzaine de villages aux alentours. Il pourrait s'agir de la tuerie la plus meurtrière depuis le début de l'insurrection islamiste au Nigeria en 2009. Les détails sur ces crimes tombent au compte-gouttes, la zone restant inaccessible.
En Côte d'Ivoire, deux proches de l'ex-premier ministre Charles Konan Bani ont été remis en liberté provisoire. C'est ce que dit l'entourage de M. Bani. Il est candidat à l'investiture pour la présidentielle de 2015. Arrêté fin décembre par la police économique, Arthur Aloko, un ancien dirigeant d'une agence publique ivoirienne, est accusé de blanchiment de capitaux pour un montant de 500 millions de francs CFA. L'autre accusé, Sylvain Oka, avait été placé en détention pour un autre crime économique présumé.
Par ailleurs, quatre personnes accusées d'avoir détourné 4,65 milliards de francs CFA, plus de 7 millions d'euros, destinés à indemniser des victimes des déchets toxiques du cargo Probo Koala, déversé à Abidjan en 2006, ont été condamnées ce mardi à 20 ans de prison. Cependant, elles resteront en liberté, a appris l'AFP.
L'Union africaine exhorte le gouvernement burkinabé à conduire la transition politique à bon port. Le groupe de contact encadrant la transition s'est réuni ce mardi. mardi à Ouagadougou. À cette occasion, l'organisation panafricaine demande la tenue d'élections libres, transparentes et régulières d'ici novembre.
Et toujours au Burkina, les 90 membres du Conseil national de transition ont été contraints de réduire de moitié leur émolument, considéré comme trop élevé par l'opinion. Ils ont décidé de renoncer à leurs indemnités spéciales de cession pour percevoir au total 880 000 francs CFA, soit environ 1350 euros, a déclaré le CNT, cité par l'AFP. Sujet sur lequel nous reviendrons dans un magazine en seconde partie d'émission.
Les États-Unis condamneront fermement toute tentative de changement de gouvernement par des moyens extra-constitutionnels. C'est ce qu'écrit Cynthia Akwete, ambassadeur des États-Unis au Gabon, dans un communiqué émis lundi. Jacques Aristide.
Washington observe attentivement la scène politique au Gabon, affirme l'ambassadeur Akwete, et d'ajouter que l'administration Obama soutient et encourage un débat politique sain avant de mettre en garde contre les appels à une insurrection ou à la violence qui sont répréhensibles et inacceptables, dit-elle. La diplomate américaine exhorte toutes les parties à œuvrer à un dialogue ouvert et inclusif à l'heure où le pays se prépare à aller aux élections l'année prochaine. Pour Mme Akwete, tout changement politique devrait être fait par voie démocratique, de même qu'à travers le respect des lois gabonaises et des normes internationales de transparence. Mi-décembre, des affrontements meurtriers entre manifestants et forces de l'ordre avaient éclaté lors d'une marche de protestation organisée pour réclamer le départ du chef de l'État, Ali Bongo. Et hier, c'est la résidence de l'opposant Jean Ping qui a été prise d'assaut par des jeunes. La gendarmerie n'a rien fait d'après lui, alors que l'AFP rapporte que le ministère gabonais de la Défense a accusé M. Ping d'avoir séquestré un agent des services de renseignement.
Épidémie d'Ebola, le président sud-africain Jacob Zuma était en Guinée aujourd'hui. Visite de soutien à ce pays frappé par le virus, visant aussi à relancer la coopération entre la Guinée et l'Afrique du Sud. La question des investissements sud-africains en Guinée sera également abordée, indique une source proche de la présidence guinéenne citée par l'AFP.
En Égypte, l'ex-président Hosni Moubarak sera rejugé dans la seule affaire de corruption qu'il maintient en détention. Après l'annulation aujourd'hui d'une condamnation à 3 ans de prison. Claire Morin-Gibourg fait le point.
Détenu depuis avril 2011, l'ex-président égyptien Hosni Moubarak a vu aujourd'hui l'annulation par la Cour de cassation de sa condamnation à 3 ans de prison pour le détournement de fonds publics. En novembre dernier, il avait déjà bénéficié d'un abandon en appel des accusations de meurtre de manifestants qui lui avaient valu la prison à vie en première instance. Mais l'ancien raïs, âgé de 86 ans et à la santé précaire, n'avait pas été remis en liberté. Il était resté en détention dans un hôpital militaire du Caire dans le cadre de son procès pour corruption. La plus haute juridiction égyptienne a également annulé la condamnation à 4 années de prison de ses 2 fils dans la même affaire de détournement. La population égyptienne, excédée par les 3 années de chaos politique et économique depuis la chute de Moubarak, a peu réagi à la relaxe de l'ex-raïs.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, de nombreux journaux ont reproduit par solidarité la une de Charlie Hebdo qui doit paraître demain. C'est le premier numéro du journal satirique depuis l'attaque meurtrière de la semaine dernière à Paris. Idriss Fall.
À la une de Charlie Hebdo qui paraît demain, il y a une caricature représentant le prophète Mohammed en larmes et tenant une pancarte « Je suis Charlie ». Le signe de ralliement des manifestants qui ont protesté contre le massacre du 7 janvier. Ce numéro sera traduit en 16 langues et diffusé à 3 millions d'exemplaires, l'hebdomadaire satirique tiré auparavant à 60 000. En France, Plantu, caricaturiste du journal Le Monde, en remet une couche avec un cardinal, un rabbin et un imam éclatant de rire en lisant Charlie Hebdo. En Europe et en Australie, beaucoup de journaux l'ont reproduit sur leur site web. Mais au Danemark, le Jylland Posten s'est abstenu. Ce journal subit des menaces depuis sa publication des caricatures de Mohammed en 2005. En Égypte, Dar al-Ifta, haute institution islamique, a mis en garde contre ce qu'elle qualifie de provocation injustifiée, mais appelle tous les musulmans à ne pas participer à des violences.
Les proches des 3 policiers français tués lors des attaques terroristes de la semaine dernière à Paris leur ont rendu un dernier hommage ce mardi. Le chef de l'État français leur a décerné la prestigieuse médaille de la Légion d'honneur à titre posthume. François Hollande a encore une fois loué la bravoure de ces policiers.
Grâce à eux, grâce à vous, c'est la liberté qui a gagné sur la barbarie. Et c'est le peuple de France qui s'est levé pour exprimer devant les représentants venant du monde entier son attachement à vivre ensemble, dans la concorde et dans la fraternité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la devise de la République, les paroles de notre hymne national, ce ne sont pas que des mots, ce sont des idées. Les idées qui fondent la France, les idées qui valent que l'on se batte pour elles. Grâce à vous, avec vous, la France est debout.
Le président français François Hollande a signalé que des funérailles ont également eu lieu ce mardi à Jérusalem pour les 4 juifs tués dans cette vague de terreur.
Et toujours en France, le Premier ministre français Manuel Valls a appelé aujourd'hui à prendre des mesures exceptionnelles face à la menace terroriste, mais jamais des mesures d'exception qui mettraient en danger l'état de droit, indique l'AFP. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé la création, avant la fin de l'année, de quartiers spécifiques dans les prisons du pays pour isoler les détenus djihadistes considérés comme radicalisés, apprend-on de même source.
Et le pape François effectue une visite de 2 jours au Sri Lanka, un pays qui compte seulement 7% de chrétiens contre 70% de bouddhistes, 12% d'hindouistes et 10% de musulmans. À son arrivée à Colombo, le souverain pontife a été acclamé par plusieurs centaines de milliers de personnes. Dans ses premiers propos et plus tard lors d'une rencontre œcuménique, il a prêché la justice, la réconciliation et l'unité entre les Sri Lankais.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco aujourd'hui avec Jean-Roger Billon. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Pas de sommet de l'OPEP dans les prochaines semaines en Algérie comme prévu.
C'est le président vénézuélien Nicolas Maduro en visite à Alger qui l'a annoncé aujourd'hui. La réunion des membres était destinée à trouver les moyens d'enrayer la chute des prix du pétrole. Le président vénézuélien a évoqué, je cite, l'absence de consensus au sein du cartel dont font partie le Venezuela et l'Algérie. En Algérie, la crise des prix du pétrole a eu pour conséquence une baisse de 8 milliards de dollars en 3 mois de ses réserves de change après une hausse continue depuis une dizaine d'années.
En République démocratique du Congo, le débat économique tourne autour des conséquences de la baisse du prix du baril au plan international.
Et la Ligue des consommateurs congolais demande au gouvernement d'examiner toutes les possibilités afin de revoir à la baisse les prix du carburant à la pompe et des denrées alimentaires de première nécessité sur le marché. Chief Chipamba est le président de la Ligue des consommateurs congolais.
Une baisse très sensible qui avoisine auprès de 55-60%, ainsi que les effets de cette baisse-là sur le plan international à la pompe ici à Kinshasa. Mais hélas, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore reçu de suite.
Chief Chipamba est le président de la Ligue des consommateurs de la RDC au micro de nos confrères de Top Congo.
La voie ferrée reliant la Tanzanie à la Zambie, paralysée par une grève.
Les employés réclament 5 mois d'arriéré de salaire selon la compagnie binationale qui l'exploite. L'autorité des chemins de fer Tanzanie-Zambie, détenue à parité par les deux pays, est déficitaire depuis plus de 10 ans, si bien qu'elle a été incapable de faire face à la plupart des charges d'exploitation, dont les salaires des employés.
Voilà pour la Minute Éco de ce mardi. Merci Jean-Roger Billon.
Et on passe tout de suite à la page sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nico.
Bonsoir Chérubin.
Le Sénégal en confiance pour la CAN 2015.
Oui, les Lions de la Teranga ont réussi une démonstration offensive en atomisant la Guinée 5-2. C'était ce mardi à Casablanca en match amical. Actuellement rassemblés à Yaoundé pour préparer la CAN. D'autres, finalement, les Léopards de la RDC qui ont battu l'équipe camerounaise d'Apeges de Mfou, 2-1. Et puis un autre match à suivre. Le Burkina Faso contre le Botswana, ce sera à Nelspruit en Afrique du Sud.
Et le Cap Vert, c'est la première équipe à être arrivée en Guinée équatoriale.
Oui, les Requins Bleus et leur staff ont atterri ce mardi à Malabo. Ils étaient également la première équipe à s'être qualifiée sur le terrain. On va rappeler qu'ils sont logés à Ebibeyin. Pour rappel, aussi également, les coéquipiers d'Odair Fortes et de Ryan Mendes évolueront dans le groupe B avec la Tunisie, la RDC et la Zambie.
Offre généreuse du président équato-guinéen, de quoi s'agit-il?
Eh oui, Teodoro Biangema a affirmé qu'il allait offrir sur ses deniers personnels 40 000 places pendant toute la CAN aux supporters les plus démunis, demandant aux plus riches d'en faire autant.
Coupe d'Asie des Nations.
L'Australie s'est qualifiée pour les quarts de finale en écrasant Oman 4-0. Cette victoire a permis à la Corée du Sud victorieuse face au Koweït 1-0 de prendre le second ticket. Les deux équipes se rencontreront pour la première place du groupe.
Et quelques résultats de la NBA pour finir.
Ouais, Brooklyn a perdu la nuit dernière face à Houston, 113-99, à l'issue d'un match qui avait débuté par l'expulsion de Kevin Garnett pour un coup de tête à Dwight Howard. Et puis Détroit a décroché une victoire surprise à Toronto, 114-111.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil en votre compagnie pour cette édition du 13 janvier 2015 et place au dossier du jour.
On met le cap sur le Cameroun pour commencer. Les autorités annoncent que l'armée a repoussé une attaque de militants présumés de Boko Haram qui tentaient de prendre une base militaire à Kolofata. C'est à la frontière avec l'État nigérian de Borno. Voici un reportage de Moki Edwin Kinzeka présenté par Michel Joseph.
Selon le ministre de la Culture, Issa Chiroma Bakari, des centaines d'éléments étaient impliqués dans cette attaque. Citant Mebengo, son collègue de la Défense, il a dit à la radio d'État camerounaise qu'au moins 143 des assaillants ont été tués, tandis que d'autres battaient retraite vers les villages avoisinants. Profitant de cette période particulièrement nuageuse de l'année, les assaillants, qui étaient des centaines, ont atteint la frontière et tenté de surprendre nos forces de défense, déclenchant ainsi de violents combats. Pendant plus de 5 heures, près du camp militaire et d'autres points stratégiques du secteur, nos forces de défense ont réussi à neutraliser les assaillants sur la première ligne de front en bombardant systématiquement leur position, ce qui s'est traduit par un revers pour les assaillants contraints de se replier sur la frontière avec le Nigeria. La réaction de l'armée a été rapide, assure le ministre camerounais de la Défense, Edgar Alain Mebe Ngo.
Nos forces vont s'engager avec plus de détermination et de pugnacité dans cette guerre et elle sera gagnée.
Abdulaziz Mustafa, conseiller municipal à Kolofata, estime à au moins 400 le nombre des assaillants présents dans sa localité.
Il y a eu 3 blessés, 1 mort côté camerounais. Et maintenant, de leur côté, il y a plusieurs morts.
Ousmaïla Malam, un habitant de Kolofata, a de son côté confirmé avoir vu le corps d'un soldat camerounais et au moins une dizaine de soldats blessés que l'on transportait à l'hôpital. Il ajoute que des civils ont été également tués avant que les assaillants ne battent retraite pour se cacher dans les villages avoisinants.
Ils ont tué un militaire. Ils ont perdu beaucoup de personnes.
Le colonel Didier Badjek, porte-parole de l'armée camerounaise, dit ne pas comprendre comment Boko Haram continue de se procurer des armes après les lourdes pertes infligées par l'armée depuis que les hostilités ont éclaté à la frontière en mai 2014.
Dans le cas du Boko Haram, l'on n'a pas encore fini de décrypter les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui justifie que le Cameroun soit attaqué en même temps sur plusieurs fronts? C'est quand même curieux.
La semaine dernière, le président du Cameroun, Paul Biya, a appelé à l'aide et à une réponse coordonnée de la communauté internationale face à Boko Haram et au terrorisme dans le monde. Être loin de la zone de conflit ne signifie pas qu'on est à l'abri, avait rappelé M. Biya.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Perspectives africaines et américaines sur les récents attentats terroristes. AGMI menace la France du pire, alors que le Cameroun fait part de son amertume devant le peu de réaction aux attaques de Boko Haram. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h30.
En République démocratique du Congo, la traque imminente des FDLR occasionne le déplacement des habitants fuyant les villes occupées par les combattants hutus rwandais. De leur côté, les organisations de la société civile dénoncent plusieurs exactions des FDLR contre les populations locales. Reportage de notre correspondant à Goma, Primo Pascal Rudaïkwa.
La société civile du territoire de Lubero déplore le comportement des FDLR qui s'en prennent aux populations autochtones depuis l'annonce du désarmement forcé de ces combattants hutus rwandais.
Une personne tuée en Mbouhi, sur l'axe Bougatengue par les FDLR. Trois personnes tuées à Kibirizi par les FDLR. Une personne blessée par balle à Lusoa. Des femmes violées à Kasiki par les FDLR. 11 cas de pillage par des coupeurs de route sur la partie Kanyabayonga Kiwanja. Des déplacements massifs des populations sur la partie Bougatengue Mouvi.
Les FDLR, pour leur part, disent qu'ils n'ont aucun problème avec les Congolais. Séraphin est coordonnateur des FDLR dans le Massissi.
Nous n'avons aucun problème avec la population congolaise. Nous n'avons aucun problème avec le gouvernement congolais. Donc nous attendons seulement donc notre processus. Comment va évoluer? Car nous avons commencé justement volontairement le désarmement pour montrer à la communauté internationale que nous sommes en paix et nous voulons la paix.
Vraisemblablement, il n'y a aucun plan de protection des civils qui a été mis en place, indique Rubens Mikindo, notable de Walikale.
Il n'y a aucun plan de contingence, malheureusement, pour le Congo. La population dans les Massissi est entrée, même dans les Walikale, nous avons tous suivi. La population est entrée d'aller dans tous les sens, mais on ne sent pas la présence du gouvernement congolais.
Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, précise que quelques dispositions ont été prises à ces sujets.
Si la population coopère, si elle collabore, il n'y a pas un seul FDLR qui peut arriver dans une parcelle sans qu'il ne soit connu par la population. Donc c'est cela que nous demandons et nous avons instruit tous les administrateurs des territoires, tous les chefs de chefferie, tous les chefs de secteur, tous les chefs de groupement, tous les chefs de village de commencer à faire un recensement administratif à leur niveau pour que nous sachions que dans telle parcelle, il y a tel nombre de familles et que à la moindre existence d'un élément nouveau, que cet élément soit signalé.
Pour sa part, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, rassure la population.
La protection des civils, c'est notre premier objectif. Ça doit être très très clair qu'on combat les FDLR, les combattants, et pas les réfugiés rwandais, et pas la population civile. C'est aussi une chose que j'ai discuté ici avec nos collègues ici des militaires, avec les FRDC et avec mes collègues. C'est très important de protéger les civils. Et nous avons aussi les représentants des organisations humanitaires. Ils font aussi partie de ce centre. C'est OCHA, c'est HCR, ils sont impliqués. C'est le PAM, ils sont impliqués ici pour soutenir la population civile.
Martin Kobler a également précisé que le début de ce désarmement forcé des FDLR reste un secret militaire. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, les députés de la transition qui avaient fixé leurs émoluments à plus de 2 700 000 francs CFA ont, sous la poussée populaire, revu leur salaire à la baisse pour l'établir à 880 000 francs par mois. Reportage sur cette querelle entre les populations et ceux qui les représentent à l'Assemblée transitoire avec Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
L'expression la mieux partagée au Faso est « plus rien ne sera comme avant » pour signifier l'intensité du changement survenu au Faso. Les populations ont été comme frappées par un coup de massue en apprenant combien sont payés par mois les députés de la transition. Et c'est un député, Alexandre Sankara, qu'il s'appelle, qui a levé le lièvre.
C'est vraiment des sentiments de satisfaction, parce que l'objectif que je recherchais a été atteint. Et on est passé de 1 700 à 880 000, donc je pense que c'est déjà quelque chose de gagné. C'est vrai, par rapport au niveau de vie général des Burkinabés, c'est toujours élevé. Mais bon, je crois qu'il faut que les gens aussi comprennent qu'on demande aux députés, au Conseil national de la transition, de faire un travail de qualité. Donc, il faut aussi donner quand même un minimum de moyens à ces députés-là pour qu'ils puissent produire ce travail de qualité-là.
Il s'en est suivi alors une lutte âpre entre les populations et les députés qui ont finalement accepté une baisse de leurs émoluments. Suivons ce qu'en pense Maître Benewende Sankara.
Moi, je pense que la question de la rémunération du député de la transition devrait être revue dans le cadre du règlement. C'est son principe qui pose problème, d'une part. Et d'autre part, c'est son montant faramineux. Quand on regarde les membres qui composent, il y en a qui continuent d'avoir les avantages de leur service d'origine. Mais c'est cette injustice que nous combattons. Ça veut dire qu'il y a eu de la précipitation, même dans l'élaboration du règlement de l'Assemblée. Mais une assemblée qui doit légiférer pour le bien du pays, ce qui les intéresse, c'est leur propre perdième, Mais c'est du ridicule.
Pour Zéphirène Diabré, ex-chef de file de l'opposition, il est souhaitable aussi de voir l'État tout entier réduire son train de vie.
Je souhaiterais que l'ensemble de l'État se dégraisse un peu et qu'il revoie son train de vie. Et donc ça touche peut-être le CNT, mais ça touche aussi le gouvernement, les institutions. Voilà, s'il y a des signaux forts qu'on peut envoyer, montrant bien qu'on tient compte de l'état d'esprit de la population, de sa paupérisation et du manque de ressources du pays, je pense que ça va créer un climat de confiance qui va nous permettre d'aller.
Cette situation a donné naissance à un mouvement intitulé « Plus rien ne sera comme avant ». Son initiateur, Idrissa Nogo, explique.
Le mouvement « Plus rien ne sera comme avant » est une organisation civile qui a pour mission donc de veiller à faire de telle sorte que l'action soit en parfaite adéquation avec la parole. Plus rien ne sera absolument comme avant.
Zoubana Wounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Et nous partons maintenant en Côte d'Ivoire. Une baisse sensible dans la production du pétrole a été constatée à la fin de l'année 2014. Germaine Drey, correspondant de la VOA à Abidjan, a fait l'état des lieux avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné.
En ce qui concerne le pétrole brut, la production à fin septembre 2014 est de 19 000 barils jour à peu près. Donc ce qui correspond à une légère hausse par rapport aux estimations, mais surtout à une baisse importante par rapport aux résultats à la même date de 2013.
Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut savoir ce qui justifie cette baisse?
Essentiellement dû aux arrêts de la production du champ Baobab et ce qui s'appelle la déplétion, c'est-à-dire la perte de pression des champs espoirs lions et panthères.
En termes chiffrés, cela représente quoi?
La valorisation donc de cette production de pétrole brut se situe à 565 millions de dollars, soit à peu près 273 milliards de francs CFA, donc en baisse de 27% par rapport à la même période de 2013.
Le gaz a connu les mêmes conséquences?
En ce qui concerne le gaz naturel, la valorisation donc à fin septembre 2014 se situe à 167,6 milliards de francs CFA. Là aussi, la production est en légère baisse, baisse de 1,66% par rapport à la même période de 2013.
Qu'est-ce que l'on peut attendre les années à venir?
Il faut dire, malgré ces baisses, que avec les permis de recherche qui ont été attribués et les permis d'exploitation récemment délivrés, nous attendons dans les prochaines années une production relativement importante. L'ambition est d'arriver pratiquement à 200 000 barils jour, par exemple, en matière de pétrole à l'horizon 2020. C'est une ambition très importante, mais qui semble réalisable vu le potentiel que notre pays a en cette matière.
Un reportage de Germaine Drey à Abidjan.
On termine cette émission en musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi.
La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Pour l'amour des enfants de demain.
Nous habitons la même cour.
La chanteuse ivoirienne des musiques du monde, Dobé Niaoré, et la structure américaine Wolf Trap avaient finalisé en décembre dernier 2014 un contrat de prestation. Ce protocole donne droit à cette bête de scène et son orchestre Ano Neko de se produire aux États-Unis au mois de janvier et février à Washington et à New York City. On l'écoute ce soir dans Ma Côte d'Ivoire.
Et j'ai tourné mes pas.
Tu as défendu ta Côte d'Ivoire. J'ai combattu pour la mienne. Pour cette espérance, nous te repenserons. Tu as défendu ta Côte d'Ivoire, j'ai combattu pour la mienne. Pour cette espérance.
C'était Dobé Niaoré et Manu Gallo dans Ma Côte d'Ivoire.
Merci Roger.
Et c'est moi qui vous remercie, Morgane.
Retrouvez Roger Muntou tous les soirs dans le RM Show à 20h, temps universel.
Et pourquoi pas, non, tu as perdu ta sœur, elle était un modèle. Mon fils est mort sous les balles.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. C'était Michel Joseph à la mise en onde,
accompagné de Nachwan Kale.
Merci à toute la rédaction. Au micro, Morgane Guiriec et Cheveux Bain d'Orcil.
J'ai combattu pour la mienne et ta dignité.